Salut Philippe.
Salut Patrick.
OK, donc il y a un match de la NFL là, qui va retenir l'attention. C'est celui du retour de Tom Brady dans son équipe mythique des... C'est le match où Tom Brady va affronter son ancienne équipe mythique des Patriots.
Oui, tout à fait. Il est maintenant avec les Buccaneers de Tampa Bay. C'est sa deuxième saison. L'an dernier, les deux équipes se sont pas affrontées. Donc, c'est la première fois qu'il y a un match entre les Buccaneers et les Patriots avec Tom Brady dans l'autre gilet, celui des Buccaneers. Ça se passe à Boston. C'est dimanche soir, Patrick. C'est télédiffusé au réseau NBC. Écoute, je pense pas que dans toute l'histoire de la Ligue nationale de football, il y a un match de calendrier régulier qui a suscité autant d'intérêt. C'est complètement débile. Je regardais hier sur le site du Boston Globe, il y avait au moins 6 ou 7 articles uniquement sur ce match-là, des chroniques, des commentaires de Brady, des commentaires de Belichick, partout sur les grands réseaux américains, ESPN, on ne parle que de ça. Et la personne qui passe la plus mauvaise semaine, c'est Bill Belichick.
L'entraîneur des Patriots.
Oui, le fort peu souriant entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, parce qu'il se fait constamment poser la question, pourquoi au juste l'avez-vous laissé aller Tom Brady? Parce qu'on sait que ça n'a pas été un succès. Il est parti à Tampa Bay, puis il a gagné le Super Bowl dès sa première saison là-bas, puis cette année, ils ont encore une excellente équipe. Alors, Belichick, tu sens qu'il en a, mais alors là, par-dessus la tête de répondre à ces questions-là. Et là, cette semaine, en début de semaine, lundi, il a dit « Tout a été dit. Là, on n'est pas encore pour tout rebrasser cette sauce-là. » Et ce que les journalistes font remarquer, ceux qui ont suivi le dossier depuis très, très longtemps, c'est qu'au fond, non, c'est pas vrai. Jamais les Patriots n'ont véritablement expliqué pourquoi ils ont laissé aller Brady il y a 2 ans. On sait tout à coup, il y avait eu des rumeurs qu'il y avait beaucoup de chicanes dans l'organisation entre Brady, Belichick et le propriétaire Robert Kraft. Ils voyaient pas l'avenir de Brady de la même façon. Est-ce que Belichick commençait à penser que Brady était trop vieux puis que c'était le temps d'amorcer un mouvement jeunesse? Probablement, avec le recul, ben ce mouvement jeunesse-là, quand tu as affaire à un Superman comme Brady, c'était manifestement... trop tôt, mais ça vraiment, là, la rencontre génère un enthousiasme exceptionnel, puis j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on a vécu d'un peu semblable au Québec, et je te dirais que ça me rappelle quand Guy Lafleur est revenu au jeu avec les Rangers de New York et qu'il a disputé son premier match au Forum.
Oui, parce que, je me souviens de cette époque-là. Là.
Ouais.
Ça avait été tout un événement. Et le Canadien, même s'il avait bien accueilli Guy Lafleur, avait eu l'air un peu fou parce que le démon blond avait scoré.
Ben c'est ça, il avait scoré, il avait marqué deux buts spectaculaires, tellement que Patrick Roy avait dit après le match, c'est la première fois que je me fais marquer des buts au Forum, et puis qu'il y a une ovation monstre qui salue ça. Ça avait été un moment absolument extraordinaire, beaucoup d'émotion. Mais ça rappelle ça, et ESPN aujourd'hui faisait la liste de tous ces grands retours qui ont marqué l'imaginaire des amateurs de sport. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et on parle évidemment de Wayne Gretzky, quand Gretzky a quitté les Oilers d'Edmonton, quand il est retourné à Edmonton avec les Kings de Los Angeles, le premier match, ça génère le même type d'engouement. LeBron James qui a quitté, la première fois qu'il a quitté les Cavaliers de Cleveland pour Miami, ben quand, avec le Heat de Miami, il est revenu jouer à Cleveland. Brett Favre aussi, le fameux carrière des Packers de Green Bay qui quitte les Packers, qui va revenir avec les Vikings du Minnesota Green Bay. Tu sais, c'est vraiment, ça marque l'imaginaire, ces matchs-là, parce que ce sont des athlètes qui ont tellement marqué, non seulement leur équipe, mais ils ont marqué leur ville, leur communauté. Ils viennent associer à ces régions-là. Et là, ben, évidemment, c'est sûr que tout le monde a hâte de voir si Tom Brady a le goût ou non de s'arranger pour que ces Buccaneers gagnent 50-0 contre les Patriots. Je te dirais que ça ressemble un peu à ça.
OK, Philippe, il y a 49 ans, aujourd'hui, en fait, à peu près à la même heure, là, se marquait le but le plus important de l'histoire du hockey canadien.
Oui, tout à fait. La série du siècle de 1972, le Canada qui a remporté le match ultime, le match décisif, c'était aujourd'hui, le 28 septembre. Et compte tenu du décalage horaire là, entre Moscou et l'Est de l'Amérique du Nord, les matchs avaient lieu en après-midi. Puis c'est là, en fin d'après-midi, 4h30 à peu près, que Paul Anderson a marqué son fameux but. 49 ans donc aujourd'hui, 50 ans l'an prochain. Je peux te dire que ça va être souligné de bien des façons. Ce cet anniversaire d'un événement sportif mythique. T'sais. Puis moi, je pense encore aujourd'hui, Patrick, que c'est le plus grand événement sportif dans l'histoire canadienne. Il y en a eu beaucoup de grands événements là, depuis ce temps-là, puis même avant. Mais ça, ça a tellement marqué une génération. Ça a tellement été quelque chose qui a uni les gens, parce que tout le monde au Canada, évidemment, était derrière l'équipe canadienne, mais qui a suscité beaucoup de controverses. Parce qu'on s'en souvient, le Canada n'était pas prêt à affronter les Soviétiques. Au début, ils pensaient que ça serait super facile, que ça serait 8 victoires. C'est une série de 8 matchs, 4 au Canada, 4 à Moscou. Ça n'a pas été le cas. Le premier match, le 2 septembre 72, c'était au Forum de Montréal. Le Canada avait pris les devants 2-0 après 6 minutes de jeu. Tout le monde pensait, ben ça y est, c'est ça. Ça va être 8 victoires de suite. Mais cette rencontre-là, finalement, a pris fin avec un retour spectaculaire des Soviétiques qui ont gagné 7-3. Le lendemain, c'était le désespoir d'un océan à l'autre. Et c'est un peu comme ça que cette série-là a pris une telle place dans nos mémoires collectives. Puis encore aujourd'hui, on célèbre ces moments-là.
MC,
je veux pas te vieillir, Philippe, mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu as vécu?
Oui, très, très bien. J'avais 11 ans. J'avais 12 ans, en fait, dans la série de 72. Puis je me souviens très bien d'être le jour du 8e match, d'être revenu en courant de l'école qui était à côté de chez nous, là, vraiment à 2 minutes en courant vite pour assister à, je pense, à ce moment-là, c'était la fin de la 2e période et la 3e période du match. Puis je te dirais aussi que c'est certainement l'événement qui m'a le plus marqué là, dans ma jeunesse ou qui débute aussi quelque part cet intérêt pour le sport, parce que ça a été tellement fort. On a peine à imaginer ce que ça représentait aujourd'hui. Tout le monde a écouté ce 8e match-là. La vie au Canada s'est arrêtée. Il n'y avait plus personne dans les rues où les gens étaient réunis devant des écrans de télévision avec l'image un peu chambranlante là, qui nous venait de Moscou. Ce n'était pas les mêmes retransmissions qu'aujourd'hui. Et ça a été un événement clé dans notre histoire.
Merci, Philippe. On va se retrouver demain.
Oui, salut.
OK, au retour aux chroniques américaines, il y a une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche de Donald Trump qui a décidé de livrer tous ses secrets.